Bon, Tom! Ah bah. Ah bah non, tu vois plus rien. Non, mais c'est pas grave, tu vois bien.
Voilà, c'est bien comme ça.
Tom?
C'est mieux, t'as pas
Non,
l'auréole
j'ai
là.
pas l'auréole. Tom! Eh bien, élève Tom les coulames! Changement de décor, mais même passion et même enthousiasme de vous revoir chaque semaine, les amis.
S'enregistre
Mais
là?
bien sûr que ça enregistre! Tu veux qu'on te voie
Non, non,
aussi?
ça y est, j'ai vu.
C'est bon? Donc voilà, on revient dans notre étude du livre de Béréchit. Et nous sommes arrivés, si je ne m'abuse, eh bien, hein, au verset 21 du chapitre 3. Chapitre 3, verset 21. Ça y est, Adam a mangé la pomme qui n'était pas une pomme. Et donc maintenant, il est temps de le sortir du Gan Eden. Il est temps de le sortir du Gan Eden. D'ailleurs, Dieu lui avait prévenu. Il lui avait dit, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, mot tamout. Mazé, mourir, c'est aller de cette réalité à une autre réalité. Entrez. Plaît-il? Shalom. C'est les inconvénients du direct. Nono. Shalom. En v'là. Voilà une chaise. Ça devient dangereux. Dab. Hein. Donc, c'est quoi donc mourir? C'est passer d'une réalité à une autre. Donc, il était dans le monde du Gan Eden. Maintenant, il passe dans un autre univers. Ça s'appelle donc pour lui, de son point de vue, Mot Tamut. Et donc, maintenant qu'on sort du Gan Eden, on ne peut plus se contenter d'être une Neshama. Puisque le Gan Eden, c'est bien pour les Neshamot, mais une fois qu'on descend ici, eh bien, on a besoin d'un réceptacle pour la Neshama. Et c'est pourquoi nous dira donc le verset, Vayas, Hashem Elohim, la Adam ou l'Eishto, Kutnot Or, Vayal Bishem. Chapitre 3, verset 23. Donc Dieu a fait à Adam et à sa femme, Kutnot Or, Vayal Bishem. Et non pas Kutnot Or. Kutnot Or.
Oui.
C'est-à-dire une tunique. Non,
de vêtements.
Ouais.
De
Ah oui,
peau.
des tuniques de peau. Alors évidemment, dans l'imaginaire collectif et de notre jeunesse, on voit tout de suite la peau de léopard, la peau de mammouth, la peau de dinosaure. Et donc, il lui a fait. Non. La peau. Il lui a fait le corps.
Ah, ça veut dire qu'ils sont toujours nus.
Ça veut dire qu'ils sont toujours nus, du moins sans habits.
Sans habits,
Mais il leur a fait un corps, puisque la Neshama ne peut pas se balader ici dans ce monde sans corps, eh bien il lui a fait le corps. Pourquoi j'ai dit Kutnot Or et pas Kutnot Or? Parce que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, il y avait marqué Or avec un Aleph. C'est-à-dire il leur a fait des tuniques de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Semble-t-il que Rabbi Meir, lui, il est capable de voir à travers notre corps la lumière qui s'en dégage. Mais ça, faut être Rabbi Meir. Dans le reste du Sifrei Torah, c'est avec un Aïn, c'est la peau. Donc voilà, il leur a fait le corps. Ah, mama, il n'y a pas marqué comment il a fait ce corps. Pour ce qui est de la Neshama, on avait dit Afar Mina Adama, tout ça, on avait expliqué comment il avait fait la Neshama. Vaipar Be'apav Nishmat Chaim. Mais pour ce qui est du corps, il y a marqué Vayas. C'est-à-dire qu'on a le produit fini. Comment il l'a fait? Eh bien, on n'en sait rien du tout. Et c'est pourquoi les scientifiques, eux, vont essayer de trouver comment l'Homo sapiens est arrivé. Et là encore, on repose la même question qu'on a déjà posée souvent. Donc, est-ce que la théorie, que ce soit de Darwin ou un petit peu évoluée depuis, parce qu'on n'est plus vraiment sur la théorie de Darwin aujourd'hui, mais est-ce que la théorie de l'évolution, qui dirait que ben, les espèces ont évolué pendant des milliers, des milliers, des milliers, des millions et des milliards d'années. Résultat des courses, on arrive à un Homo sapiens il y a à peu près 200 000 ans. Est-ce que ça nous dérange? Ben, pour ce qui est du 200 000 ans, on a déjà expliqué que non, ça ne nous dérange pas. Et pour ce qui est de l'Homo sapiens qui descendrait d'un primate et qu'on aurait comme ancêtre commun Lucie, ça ne nous dérange pas non plus, puisque c'est pas marqué dans la Torah. Alors quand les gens me disent, bah attends, tu vas quand même pas dire qu'on descend du singe. Eh bien, ça dépend quoi? S'il s'agit du corps de l'homme, eh bien, j'ai aucun problème de parler d'évolution naturelle. S'il s'agit de la Neshama, bien sûr que non. C'est une Neshama, c'est une création à part entière. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Venez, on traduit ça dans une réalité concrète. Eh bien, cela veut dire, les amis, que lorsque, il y a 5782 ans et quelques mois, Adam Arishon sort du Gan Eden et Chava Arishona, enfin, non pas Arishona, mais Chava Ashnia, mais de nom de famille Arishon, hein, Madame Arishon, c'est ça qu'on l'appelle sur les invitations au mariage. Monsieur et Madame Adam sont invités au mariage. Ah oui, effectivement. Et donc, Adam et Chava descendent du Gan Eden, arrivent ici. Lui reçoit un corps d'Homo sapiens mâle. Elle reçoit un corps d'Homo sapiens femelle. On est il y a 5782 ans. Il y en a encore plein d'autres des Homo sapiens qui se baladent sur la planète. C'est-à-dire qu'au moment où Adam et Chava arrivent ici, il y a plein d'autres humanoïdes, bien sûr, qui se baladent et qui côtoient Adam Arishon.
Les autres n'ont pas d'âme ?
Exactement. Ils sont des animaux évolués. Est-ce qu'ils ont développé la parole ? Certainement. Mais ils n'ont pas la Neshama. Ah, mais à ce moment-là, d'ailleurs, ce qui expliquerait de qui Caïn a peur, on n'a pas encore étudié Caïn, mais s'il n'y a que Adam, Chava et Caïn, ben de qui il a peur ? Pour demander à Dieu de le protéger. C'est-à-dire, il y a plein de monde. Mais aujourd'hui, oui, nous sommes tous les descendants de Adam. Quoi ? Est-ce que génétiquement parlant, on est tous les descendants d'Adam ? C'est pas le débat. Le fait est que, un, il y a ce qu'on appelle en science la sélection naturelle, qui fait que Homo sapiens, par exemple, il a battu Néandertal, parce qu'il était plus prêt pour vivre dans ce monde-là. Donc on pourrait dire que l'homme plus Neshama, l'Homo sapiens plus Neshama, eh bien, il est plus évolué que l'Homo sapiens sans Neshama, et donc au fur et à mesure du temps, il l'éclipse. Et puis rajouter à cela le fait qu'il y a eu le déluge. Et que Noah et sa famille sont évidemment des descendants de Adam. D'accord ? Bon, je ne rentre pas maintenant dans la question purement génético-scientifique de savoir est-ce qu'il y avait Emmett eu un Adam Arishon. C'est une question qui a été posée par plusieurs scientifiques. Oui, je vous le dis, je vous spoil, il y a eu un Adam Arishon et il y a eu une Chava Imenu. Il y a eu. Le seul problème, c'est qu'ils ont scientifiquement vécu, il y a l'un Adam entre 100 et 180 000 ans et Chava entre 120, si je ne me trompe pas, et 170 000 ans. En arrière. Est-ce qu'ils se sont rencontrés ? On n'en sait rien. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer scientifiquement s'il y a eu un Adam Arishon ou pas un Adam Arishon ? En fait, c'est très très simple. Il suffit de faire des tests statistiques. Vous le savez, les garçons, ils ont un chromosome Y. Il y a Y. Ce qui veut dire que dans une famille, le fils, il a forcément reçu le chromosome Y de son père. Et donc, en fait, tu remontes comme ça et tu peux voir quel a été le premier chromosome Y. Et donc, ça t'amène, c'est-à-dire que statistiquement, tu fais des calculs, machin, et ça t'amène à entre 100 et 180 000 ans en arrière, il y avait le premier chromosome Y duquel découlent tous les chromosomes Y aujourd'hui. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas de chromosome particulière à elles, puisqu'elles sont de X, mais on va pouvoir retrouver ça dans le liquide amniotique, on va pouvoir retrouver, oui, quelque chose qui est un héritage génétique qui se passe uniquement de mère en fille. Donc on va pouvoir trouver ça aussi, et c'est le calcul qui nous amène à 170 000 ans à peu près. Bon, enfin bon, c'est pas très important. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a 5782 ans, Adam Arishon et Chava Imenu arrivent dans ce monde, dans des corps. Et à partir de ce moment-là, l'histoire de la Torah arrive sur notre plan d'existence. Jusqu'à présent, c'était le Gan Eden. Maintenant, c'est ici. La question est de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu, pendant trois chapitres, a pris le temps de nous expliquer et de nous dresser le portrait d'un monde qui n'est pas le nôtre. Alors, la Torah, elle est donnée à Moshe, au Bnei Israël, ici, sur cette terre. Donc, à quoi ça sert si tu m'avais dit la Torah elle a été donnée au Gan Eden ? Bon, bah d'accord, c'est pour les gens du Gan Eden, il se trouve qu'après on est parti. Mais ce n'est pas le cas. La Torah va être donnée à des gens ici. Donc pourquoi les gens ici qui n'ont jamais vécu au Gan Eden, on leur présente les trois premiers chapitres de la Torah ? Eh bien, tout simplement parce que quand on est à l'école et qu'on a reçu son devoir, nous en France on était noté sur 20. Donc quand tu arrives avec 17, 18, c'est une bonne note. Mais si ma fille en Israël, qui est notée sur 100, elle arrive à 18, c'est ça. Donc le 18 en soi, il ne veut rien dire. S'il n'y a pas de point de repère par rapport auquel on décide de juger. En d'autres termes, c'est très important de savoir qu'il y avait le Gan Eden quand on n'y est plus, pour savoir vers quel idéal on doit tendre. La présentation des trois premiers chapitres de la Torah, ça nous présente ce que Platon avait appelé le Olam Ha'ideot, le monde de l'idée. Et il y a ensuite sa concrétisation ici-bas. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand Dieu il nous a créé le Gan Eden et qu'il nous l'a présenté, ben, il y avait aussi la planète Terre qui était là. Il l'avait déjà créé, enfin, il y a 13,7 milliards d'années. Seulement, on n'en parlait pas. Ce n'était pas ça qui nous intéressait. Maintenant, on va faire descendre la présence divine dans ce monde. Et à partir de là, à partir de ce verset-là, tout le but de l'homme, c'est de dévoiler Dieu ici. Ok ? Alors, allons-y. Vayomer Hashem Elohim, en Adam haya ke'echad mimenu ladat tov vara, ve'ata pen yishlach yado ve'lakachat gam me'etz ha'chayim, ve'achal ve'chay le'olam, ve'yishalechehu Hashem Elohim migan Eden la'avod et ha'adama asher lukach misha. Donc maintenant, l'homme va être chassé. Pourquoi ? De peur que maintenant, il prenne Etz Hachaim. S'il prend Etz Hachaim, il rentrera dans l'éternité avec sa faute. Il n'a pas encore corrigé sa faute. Donc s'il mange maintenant, c'est terrible. Donc il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et maintenant, il devra la avod et ha'adama asher lukach misham. Mazé la avod et ha'adama. Oui, d'un côté... mais Mazé Asher Lukach Misham.
Il a été pris de l'homme.
Oui, mais qu'est-ce qui a été pris de là?
L'homme.
Non, quelle partie de l'homme? La Neshama. Qu'est-ce qui a été fait Afar Mina Adama? Sa Neshama. Ce qui fait que maintenant, le boulot de l'homme va être de travailler ici pour dévoiler ça. Et c'est le conflit. Bah oui, c'est notre conflit quotidien. De savoir est-ce que mon corps fait écran à ma Neshama? Ou est-ce que c'est un outil pour dévoiler ma Neshama? Et c'est notre combat de tous les jours. C'est-à-dire, ce que la Chassidoute va appeler Nefesh Elohit, Nefesh Behemit, c'est le combat de tous les jours. Est-ce que on est au mois de janvier, il fait 4 degrés dans l'appartement parce que le chauffage, il a eu un problème et que le technicien, il vient que demain? Est-ce que, quand le réveil sonne à 6h du matin pour la tefila, je saute bondi du lit pour aller faire ma douche froide et aller à la tefila, ou je décide de me retourner de l'autre côté, de fermer le œil et d'attendre que ça passe. C'est la question. C'est-à-dire, donc ça va être le combat de la vie de l'homme. Ok ? Vaygaresh et Adam vayashkem mikedem legan Eden et akeruvim veet laat acherev amitapechet lishmor et derech et sachayim. Donc, non seulement on est parti, mais à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a mis un garde-fou, a mis un gardien du chemin de l'arbre de vie. C'est qui ce gardien ?
Des gardiens.
Akruvim. On les connaît, ces Kruvim. D'où est-ce qu'on les connaît ? Sur le Aaron Abrit. Nakhon. Donc, ça veut dire que les Kruvim au Mishkan servent à quoi ? À protéger quoi ? Pas tout le Mishkan.
Non.
À Aaron. Il y a quoi dans l'Aaron? À Toyre. Donc maintenant vous avez compris c'est quoi Etz Hachaim? À Toyre. Mais elle l'a dit avec l'accent allemand. J'ai l'impression d'entendre le Rav Shimshon Raphaël Hirsch à côté de moi qui disait Tauro im derech Eretz. Tauro.
Alors en français, ça donne quoi?
La Torah.
Ah, d'accord.
Tout simplement.
Ah, ben,
t'as vu?
Alors
comment, la Torah.
Discipline.
Eh ben alors.
Écoute, je ne suis pas branchée là. Je ne suis pas branchée.
Écoute-moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Un jour, j'ai dit, j'étais avec Laura Cherki et je lui disais, on était juste avant Rosh Hashanah, il me dit, c'est lui qui me dit, alors tu vas faire la tefila? Je dis, ouais, je... Il dit, comment tu vas dire encore une fois que Dieu il a détruit le monde à Rosh Hashanah? Je dis, mais non, je ne peux pas dire que Dieu il a détruit le monde. Dieu il a créé le monde. Mais non, je ne sais pas, mais chez vous, vous dites Ayom Ara Solam. Parce qu'en vrai, il y a marqué Arat. Mais les Ashkenazim, ils prononcent le Tav quand il n'y a pas de point. Comme un Ayom Ara Solam. Non ? Comme ça ? Chez. Alors, Bekitsour, la Torah, donc effectivement, il a mis les Kruvim, c'est-à-dire, nous on connaît les Kruvim comme étant ceux qui sont sur le Aaron, qui vont servir justement de connexion avec la Torah. Eh bien là, pour l'instant, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire quoi ? Qu'il les a mis pour garder le chemin derrière Hatzachaim. C'est-à-dire que tant qu'on n'y est pas prêt, on ne pourra pas y aller. Mais quand on est prêt, les Kruvim nous laissent passer. Ok ? Très bien. Chapitre 4. Nous avons donc été expulsés du jardin d'Eden. Et c'est là qu'arrive le chapitre 4 qui nous dit « Ve'adam yada et rava ishto » Nos amis chrétiens sont très heureux et disent, eh ben voilà, vous voyez donc que la relation intime est la résultante du péché originel. Toute forme de relation intime, ben oui, on a mangé, on a fait le péché, on a été expulsé du Gan Eden. La première chose qu'on nous raconte après, c'est ils ont fait le ham-ham. Donc ça veut dire que le ham-ham, eh bien, ça, c'est mal. C'est la conséquence directe de la avéra. Ce qui veut donc dire que toute personne qui est née d'un acte sexuel est porteur du péché originel. Donc, aucun être humain ne peut trouver grâce aux yeux de Dieu. Seul quelqu'un qui ne serait pas né d'une relation intime peut sauver l'humanité. Et donc, seul quelqu'un qui aurait été immaculément conceptionné...
J'allais te dire, il y a les filles, hein.
Oui, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ça a l'air. Mais il y a eu fécondation, quand même.
Fécondation in vitro.
In vitro. Est-ce que tu penses que c'est de cela que parlaient les chrétiens ? Tu crois que Jésus, ça a été une fécondation in vitro ? Je ne suis pas certain. Ça a l'air. Donc, pour les chrétiens, quand on y réfléchit deux petites secondes, ça montre aussi une dimension extrêmement morbide de la relation à l'homme et de la relation à Dieu. Parce que si on pousse le christianisme catholique jusqu'au bout, bah c'est-à-dire qu'il ne devrait plus y avoir de catholiques.
Oui.
Puisque le mariage est toléré, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est la prêtrise. Et la prêtrise n'est pas censée avoir de relations intimes.
Pas censée, oui.
On ne va pas s'étendre sur le sujet.
Non, mais pardon, il ne faut mieux pas s'étendre.
Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ils ont déjà assez de problèmes comme ça. On ne va pas rajouter. Hein. En tout cas, c'est un vrai problème. Alors, la couchée, elle est quand même bonne. Comment est-ce qu'on répond à la couchée ? Il y a quand même marqué, bah, Adam Yada travaille histoire après l'expulsion du Gan Eden. Et c'est pour ça que le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont jamais lu Rashi. Et qu'ils ne connaissent pas bien l'hébreu. Car Rashi nous dit qu'en hébreu, de la Torah, lorsqu'on parle d'un événement passé, eh bien, on met d'abord le verbe et ensuite le sujet. Si on nous parle d'un événement passé, mais qu'on met d'abord le sujet et ensuite le verbe, ça veut dire que c'est du passé antérieur.
Comment ça aurait pu être
Vayeda Adam, comme c'est marqué pratiquement tout le temps dans la Torah. Ok, Vayikar Avraham, et ainsi de suite. D'habitude, c'est comme ça que c'est marqué. Mais quand c'est marqué le sujet d'abord et ensuite le verbe, c'est que ce n'est pas du passé, mais du passé antérieur. Donc, ça veut dire quoi le passé antérieur ? C'est que ça s'est passé encore avant ce qu'on t'a raconté là maintenant. Ce qui veut dire que quand ça s'est passé avec Adam, Yada et Trava Ishto, Began Eden. Avant la faute. Évidemment. Ah, pourquoi c'était pas écrit là-bas ? Parce que là-bas, on n'avait pas besoin de l'écrire. Pourquoi ? Parce qu'au Gan Eden, on n'était pas encore occupé au Toladot. On n'était pas encore occupé des engendrements. Maintenant, le projet du chapitre 4, c'est la succession. Donc, on en parle maintenant. Mais c'est pas grave qu'on nous raconte que ça se soit passé là-bas. Parce qu'on veut que tu comprennes. Les engendrements, ils vont prendre fait et cause dans ce monde. Mais que tu saches que la création d'un nouvel être, ça se passe kodem kol là-haut. Agave, c'est ce que répond le Rav Kook à la question, à partir de quand commence l'éducation d'un enfant ? Eh ben non.
À partir du premier, de la conception, de la grossesse.
Alors, est-ce que c'est au moment de la conception, de l'acte entre lui-même, entre le père et la mère ? Il dit non. Zé, mais t'arrête la choupa.
Ah. Ben oui.
Eh oui. C'est sous la choupa que commence l'éducation de l'enfant, qui va peut-être naître dans 5 ans ou dans 5 ans. Mais c'est là-bas, au moment où les Neshamot se lient, mais sans acte, même sans acte sexuel, mais je veux dire sans concrétisation physique quelconque, parce que au début de la Khoupa, ils sont fiancés, ils sont pas encore mariés, ils peuvent pas se toucher. C'est-à-dire qu'il y a une connexion uniquement au niveau de la Neshama. Eh bien, c'est vers Adam Yada et Travaïchto. Alors, comment est-ce que ça se concrétise ici? D'accord? Donc, va Adam Yada et Trava Ishto. Va Tar. Quoi? Dis-moi.
C'est pas marqué nulle part. C'est sûr que ça change tout. Le fait que c'était avant et que oui. C'était pas après. Mais là, c'est pas marqué à quel moment. C'était Biyom Shishi.
Ah oui, non. Là, c'est pas marqué. Si, enfin, c'est marqué dans. Non.
Est-ce que c'était avant ou après qu'ils aient mangé le fruit?
Avant.
Mais on ne sait pas.
Non, ici, c'est pas. Non. Le Avar Mugdam, il te dit, ça change tout. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Avar Mugdam? C'est-à-dire que ça se passe avant l'histoire que je viens de te raconter. C'est le projet du passé antérieur. Le passé antérieur, il avait fait ça. Quand? Bah, avant ce qu'on vient de te dire. Donc là, on vient de te parler de la faute, donc ça s'est passé avant. Maintenant, dans le Midrash et dans le Talmud, on va te raconter chaque heure de la journée du Yom Shishi, qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, Nisdav Galos Chava, ça se passe avant la faute. Ok, donc ça se passe avant, quoi qu'il arrive. Maintenant, donc, d'accord, dans les cieux, maintenant, ça se concrétise ici. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, va-t-elle. Alors, ceux qui ont un roumache, regardez bien, parce que le mot est assez prenant. Va-t-elle ben? Va-t-elle ben?
Non,
va-t-elle
Cain?
Ah bon?
Cain.
Il n'y a pas marqué chez vous va-t-elle être Ben?
Non.
C'est bizarre.
Et Cain.
Ah bon? On m'accusait de falsifier les versets comme ça.
False news.
Hein, c'est fake news.
Fake news.
Eh bien, vous avez totalement raison. Je suis un mécréant. Mais c'est ce qui aurait dû avoir marqué. Ouais. Va-t-elle être Ben? Et ensuite seulement, on va le nommer. Mais là, non. Là, non. Là, il est directement Cain. Va-t-elle être Cain? Hoppa. C'est quoi Cain? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Cain, c'est un kinyan. C'est un acquis. Ok? Eh bien oui, c'est ce qu'elle dit. Va-t-elle être Cain? Va-t-omer kaniti ish et Hashem. J'ai acquis un enfant et Hashem avec Dieu, comme Dieu, en partenariat avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est devenue créatrice. Il y a, et c'est d'ailleurs un des grands problèmes, qu'avait. Ah là là. Je m'en rappelle plus. Un des philosophes, je crois que c'est Nietzsche. Je suis pas sûr que ce soit Nietzsche ou pas. C'est pas Nietzsche. Oh là 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 là. Bon, un des philosophes qui avait un grand problème, je me rappelle plus de qui. Ça me reviendra, pour expliquer, non, je crois bien que c'était Nietzsche, pour expliquer que c'est pas possible qu'il y ait Dieu. Pourquoi c'est pas possible qu'il y ait Dieu? Parce qu'il y a une contradiction fondamentale. Alors, et si on dit que Dieu est bon, c'est le postulat de départ de ceux qui croient en Dieu. Le problème, c'est que Dieu, il est par excellence le créateur, il m'a créé, c'est génial, sauf que, donc, il a fait de moi par excellence une créature. Ce qui fait que je vais être fondamentalement différent de lui qui donne et moi je reçois. Et donc je ne pourrai jamais véritablement me ressembler à lui. Et donc je serai fondamentalement frustré à jamais de ne pouvoir me ressembler à mon créateur. Ainsi donc je serai frustré et mal dans ma peau toute ma vie. Le mal ne peut être engendré par le bien. Il n'y a donc pas de Dieu. C'est QFD. Réponse de la Torah. Kaniti ish et Hashem. Tu peux devenir toi aussi créateur. Quand tu fais un bébé, tu deviens toi aussi créateur de vie. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Il y a dans la naissance de Cain l'espoir de toute l'humanité. Cain devrait être le Mashiach. Ouais. Cain devait être le Mashiach. Ni plus, ni moins, les amis. On devait terminer l'histoire avec Cain.
Alors qu'elle
n'a pas commencé. Si, elle a commencé. Attends, tu sais combien de disputes il y a eu dans la cuisine de chez Adam et Chava? Pourquoi je dis que Cain devait être le Mashiach? Eh bien, tout simplement parce que dans le livre de Yéhézkel, le Mashiach est appelé Ben Adam. Et le premier Ben Adam,
c'est
Caïn. C'est Caïn. Pas shoot. Moi, je pas shoot. Bah, non, c'est pas shoot,
oui,
non
si, si, oui, c'est pas shoot.
Ben Adam, c'est QMD. Hein? Et là, il y a un problème. Donc, va t'aller d'être Caïn, va te mettre Kaïn, et chez Tachem. Quel problème? Va Tosef la ledette. Elle a rajouté d'enfanter. De là, nos sages vont dire, donc c'était des jumeaux. Ça va Tosef la ledette. Elle était encore en train, elle va Tosef. C'était pas prévu. Bon, ils n'ont pas fait d'échographie à l'époque. Donc, ils ne savaient pas qu'il y en avait deux.
Ils ne savaient même pas comment on faisait un bébé.
Qui te dit? Ils ont réussi.
Elle dit qu'elle l'a fait avec Dieu, c'est parce qu'elle ne savait pas. Que...
Ah, tu dis c'est le début de l'Immaculée Conception.
C'est comme ça qu'on faisait un bébé.
Bah, ils ont vu les animaux faire. Ça fait des animaux faire. Mais Kitzour, là le problème c'est qu'elle a continué à enfanter. Va Tosef la ledet. Ah oui. Qui?
Abel.
Non.
Une fille.
Alors, le Midrash il dit que à chaque fois qu'il y a marqué Et, non, le Midrash il dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué Et, c'est pour dire qu'ils avaient une sœur jumelle. Ok. Donc d'après le Midrash, quand on dit Vatar vateled Et Caïn, il y avait Caïn et sa sœur jumelle. Et après quand on te dit Vatosef la ledet et Achiv et Avel, c'est-à-dire qu'il y avait Avel et deux filles. Et.
Ah oui,
des triplés.
Des triplés maintenant. Donc c'est très bien. Comme ça, Caïn, il peut se marier avec la sœur de Avel, qui est aussi sa sœur. Hein, oui. Et on n'est pas dans la génétique près, non, ça non. Va. Mais attendez, deux secondes. Sans rentrer dans le Midrash. Va Tosef la ledet. On avait dit tout à l'heure qu'il y a un problème qui ne s'appelait pas Ben avant de s'appeler Caïn. Mais là, on a un autre problème. Il ne s'appelle pas Evel en premier. Va Tosef la ledet et Achiv.
Son frère.
C'est-à-dire qu'il est d'abord et avant tout son frère, et ensuite seulement il est Evel. Et là, il faut qu'on comprenne dessus. Caïn, c'est un acquis. C'est-à-dire qu'il sait de sa nature profonde que c'est lui, le centre du monde. Comme on a dit, il est l'espoir de l'humanité. En d'autres termes, Caïn sait dans son fort intérieur que c'est d'abord moi et après les autres. Evel, c'est tout l'inverse. Il est né frère. C'est-à-dire que dans son essence, il sait que c'est d'abord l'autre et ensuite moi. Ça va se ressentir sur les métiers qu'ils vont choisir. Regardez. Ve'yevel ro'etzon ve'kain aya oved adama. Evel ro'etzon, pourquoi ro'etzon? C'est-à-dire celui qui s'occupe des autres. Ve'kain aya oved adama. Pourquoi? Parce qu'il continue, il est lui l'héritier de Adam, qui doit la avodet à Adama. Mais regardez comment est-ce qu'il y a marqué oved, pas de vav. C'est-à-dire qu'on pourrait lire Eved. Il est l'esclave de cette terre. Ok ? Donc on a ici deux identités complètement différentes. Caïn et Evel, c'est deux choses. Qui est le Bechor ? Caïn. Qui est censé être l'héritier ? Caïn. Qui est l'espoir ? Caïn. Et regardez ce qui se passe. Vayim iket siyamim. Donc on est à la fin des temps. Rachid nous dit non, c'est à la fin de la récolte. Mais c'est la fin des temps. C'est tout est un microcosme ici. Vaimiketz yamim vayave Caïn mipri a adama mincha l'Hashem. Tzadik. Caïn a décidé de faire un korban à Dieu. Personne ne lui a demandé. C'est tzadik.
C'est sympa, oui.
Tzadik Elion, j'ai envie de te dire. Personne ne lui a demandé de faire un korban. Il a fait un korban. Fait merde. Eh bien, vayavel evi gamu mi bechorot sono. Ou Michel VM. Et bien, il a copié, voilà. Comme tous les petits frères. Vaïcha, Hachem el Evel, vel minchato. Dieu a accepté le corban de Evel, vel Caïn, vel minchato, locha. Il n'a pas accepté celui de Caïn.
C'est dur, ça.
Il a fait. Ma, lama. Quelle différence y a-t-il entre les deux corbanotes? L'un amène miketz yamim et l'autre mi bechorot sono. Evel a amené ses prémices, ses premières, ses nouveaux bétails, les meilleurs, les plus beaux. Caïn, lui, il a enlevé les derniers fruits de la récolte. Vendange tardive.
C'est les meilleurs.
Non, mais il n'a pas fait un caveau de saminaire, vendange tardive. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Tu sais, c'est les derniers fruits que... Non, c'est pas les meilleurs. C'est celle avec qui tu fais de la confiture.
Non.
Tu vois ce que je veux dire. Non, oui, je sais. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que Miket, c'est les fruits les plus... Pourquoi il a fait ça? Mais parce que c'est dans sa nature de faire ça. On a dit Caïn, c'est d'abord moi et ensuite les autres. T'as dit Toda que je t'ai déjà donné quelque chose.
On lui avait rien demandé.
Et en plus, on m'a rien demandé. Et l'autre, il a pris de ses premiers fruits. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'il pense. Oh, chez Eshmashu Acher, que Caïn, il a dit, je vais Dafka donner les plus mauvais. Pour montrer que même là-bas, il y a de la Kedusha. Facile de dévoiler la Kedusha quand c'est bon. Dévoiler la Kedusha quand c'est tout pourri, ça c'est autre chose. Mais Dieu, il n'a pas accepté. Réaction de Caïn. Vayichar le Caïn me'od vayiplou panav. Dépression totale. Vayomer Hashem el Caïn. Lama charalach. Velama naflou panecha. Entre parenthèses, Caïn est prophète. C'est-à-dire, ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Tout le monde pense que Caïn, c'est un rachat merusha. Caïn, Navi,
Zélo Pachout. Comme il parle à Dieu, il est prophète.
Oui, Dieu lui parle. C'est pas parce que lui, il parle à Dieu. Parce que toi et moi, on parle aussi à Dieu, mais on n'est pas prophète.
Non.
Enfin, moi, je... Non, mais peut-être toi.
Je te dirai pas.
Ah, ben, c'est ça. Tu as peur que je t'amène à Brabanel. C'est ça. Si jamais tu me dis. Mais qui t'sour, les amis, Caïn, il parle à Dieu. Et Dieu lui parle. Vayomer Hashem el Caïn, lama charalach, velama naflu panecha. Lama. Pas juste lama. Non, regarde. Aloim tetiv, c'est et. Oui, tu pars avec un handicap par rapport à Evel. C'est nachon. Aval im tetiv, mais si jamais tu combats ce handicap, c'est et, tu seras plus haut encore. Veim lo tetiv, la petacha tatrovetz. Velecha teshukato, vatatim sholbo. Si tu bats ton Yetzerara, tu seras encore plus grand que Evel. Sinon, tu en deviendras son esclave, tu seras son serviteur. C'est-à-dire que Dieu est en train d'apprendre à Caïn quoi ?
La modestie.
Non, pas la modestie. C'est pas, il n'est pas orgueilleux, Caïn. Mais il pense qu'il a une destinée, qu'il a un mektoub d'être comme ça. C'est d'abord moi, ensuite les autres. Et Evel, c'est d'abord les autres et ensuite moi. Dieu lui dit, mais non, mon ami, tu as ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce vers... Hein ?
Il part avec un handicap.
Il part avec un handicap.
Comme chaque homme.
Mais Evel, il a un autre handicap. C'est à force de s'occuper que des autres, on finit par se délaisser soi-même. C'est aussi un handicap. Je suis désolé, regarde comment se... Prends un artiste. La majorité des artistes, je ne parle pas à celui qui est déjà connu et tout ça, Neber. Il est trop dans les mondes supérieurs, il ne fait pas attention ni à sa chambre, ni à ses habits. Ça ne marche pas non plus. Donc tout le monde a un handicap. Tout le monde a des netounes ptira. On a tous des points de départ qui sont plus ou moins bons. Maintenant, Dieu nous révèle ici, mais tu peux changer. Ici, on vient d'apprendre la notion du libre arbitre. Tu n'es pas déterminé. Yesh be'emet bechira chofshit, d'après le judaïsme. Mais sauf que quand on dit ça, il faut qu'on soit concret. Yesh be'emet bechira chofshit, dans le judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a le libre arbitre ? Eh bien, je vais dire une phrase ici qui peut vous faire soulever des sourcils. Mais cela veut dire que Dieu, il sait ce que je vais faire à l'avance ou il ne sait pas ce que je vais faire à l'avance ? Hein, grande question bien connue.
Moi, je dis que il sait.
Caché, hein, caché. Le Ralbag.
Mais nous, on ne sait pas qui c'est.
Non.
Le Ralbag nous dit, Rabbi Levi Ben Gershon nous dit, Dieu sait tout ce qui se passe à l'avance, sauf les choix des hommes. Donc, il ne sait pas ce que je vais faire demain. nous dit Rabbeinu Chisdaï Kreskas, Mapitom, Dieu il sait pas, de dire que Dieu il sait pas ce que tu vas faire demain, Mapitom, Dieu il sait tout ce que tu vas faire et toi tu crois que tu peux choisir, mais en fait tu choisis pas. Rabbeinu Yitzhak Abrabanel nous dit, mais ça va pas à la tête. Le Ralbag a dit un truc très dur à entendre, mais Rabbeinu Chisdaï a dit un truc qui frôle la picorsout. De dire qu'on est des pantins dans la main de Dieu, c'est terrible, ça veut dire que ça enlève toute la responsabilité de chacun. Si je suis une marionnette, alors si je tue quelqu'un, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est ce que disent les chaïdim de nos amis musulmans, qui eux, ne pensent pas qu'il y a le libre-arbitre. Dans l'islam sunnite, il n'y a pas de libre-arbitre, c'est mektoub min Allah. Et c'est pas juif. Donc quand on dit que Dieu il sait pas ce que je vais faire demain, pourquoi ça sonne faux? Parce que quoi? Tu limites Dieu. Mais non. Car il ne s'agit pas de le limiter, nous enseigne Rabbi Ovadia Sforno. Lorsque Dieu va enlever ou pas le libre arbitre de Pharaon, Erbed Lev Paro, Dieu lui enlève là-bas d'après le Sforno son libre arbitre. C'est-à-dire que s'il ne lui enlève pas, il l'a pour de vrai. Donc Dieu, c'est pas qu'il ne peut pas savoir ce que je vais faire demain, c'est qu'il a décidé de ne pas savoir ce que je vais faire demain. Il peut comme ça décider de oui savoir et de m'enlever mon libre arbitre. Mais tant que je l'ai pour de vrai. Et c'est pour ça que quand je fais quelque chose, je suis responsable de ce que je fais, en bien ou en mal. Et je ne peux pas accuser quelqu'un d'autre. C'est vrai ? Donc c'est ce que Dieu ici apprend à Caïn. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vayomer Caïn. El Evel Achiv, Vaibiotam Basade, Vayakom Kain al Evel Achiv, Vayargen. Ce verset, il n'est pas clair. Les mots sont clairs, mais il n'est pas clair. Et Kain a dit à Evel, son frère, et lorsqu'ils étaient dans le champ, Kain s'est levé sur Evel et l'a tué. Qu'est-ce qui me manque dans le verset ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ben oui, qu'est-ce qu'il lui a dit ? On dit, il lui a dit quelque chose. Mais on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Si, on sait ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Achiv. Il lui a dit, t'es mon frère.
Non.
Achiv. C'est-à-dire qu'il a parlé de fraternité. Mais ça n'a pas marché. Il ne l'a pas bien dit. Il a dit Achiv et non pas Achiv. En d'autres termes, il a compris qu'est-ce que c'était la fraternité. C'est quoi la fraternité ? Mais ça, Ach, ça vient de Achva. Arva, c'est pas seulement, c'est quoi la fraternité? C'est-à-dire qu'on est responsable les uns des autres. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est la fraternité? C'est apprendre moi de toi et toi de moi. On se complète. Donc c'est, il a compris l'idée, Caïn. Et c'est de ça qu'il veut parler à Evel. Mais ça marche pas. On nous dit le Midrash que lorsqu'il a essayé de lui parler, il avait les yeux pleins de sang. Mais c'est plein de sang. Ouais, tu sais.
Il était furieux.
Et Evel, il l'a vu arriver. Il n'a même pas écouté ce qu'il avait à lui dire. Parce que Evel, il était ceinture noire de judo. Donc il l'a pris et il l'a directement mis au sol. C'est le Midrash. Directement. Midrash remasterisé à ma sauce. Parce que Caïn, il avait un couteau. Il voulait le tuer. Donc il l'a mis au sol. Et là, Caïn, au moment où il est au sol, et Evel lui a pris le couteau et va le tuer lui, parce que Abba le Orgecha, Ashkem le Orgo, celui qui vient te tuer, lève-toi et tue-le avant lui. Donc Evel va le tuer, à ce moment-là, Caïn dit, attends, qu'est-ce que tu vas dire à maman? Si tu me tues, qu'est-ce que tu vas dire à maman? Hein? Et à papa? Et là, Evel se relâche, le relâche, comme Caïn à Evel arrive, va y arriver. Et là, il a retourné la situation et il l'a tué. T'as vu ? Attendez, petite seconde.
Colombo.
Qu'est-ce de deux secondes ?
À ce moment-là, c'est de la légitime défense.
Pour qui ?
Pour Caïn.
Pas vraiment, parce que c'est Evel. Oui, mais c'est Evel qui voulait le tuer pour légitime, enfin, pas légitime défense. Donc c'est de la légitime défense. Ça devient compliqué, cette histoire. Je dirais simplement la chose suivante. Evel, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais sa punition a été de mourir. Donc, quelle que soit la faute de Evel, il a été Chayav Mita. Caïn, il n'est pas Chayav Mita. Je connais pas la suite du film, mais il paraît que il va partir en exil. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est Chayav Mita et Chayav Galout? C'est est-ce que tu l'as tué Bemezid ou Beshogeg? Donc il semblerait que le meurtre de Caïn sur Evel, c'est Shogeg.
C'est quoi Shogeg?
Shogeg, c'est pas véritablement volontaire. Mais quelle a été la faute de Evel pour mourir? Evel, c'est un berger, c'est un dirigeant, c'est un éducateur. À ce niveau-là, quand tu es le responsable des autres, faire une faute de manigout, faire une faute de leadership, ça passe pas. Penser que Caïn a déjà intégré les qualités de Evel et a déjà fait tchouva en une seconde, c'est de la naïveté. Être naïf quand tu es un leader, ça peut amener tout un pays à donner de l'argent à des gens qu'il ne faut pas. Bon, toute ressemblance avec un cas actuel serait pas en fortuite et involontaire, bien évidemment.
Oui. J'ai peut-être raté quelque chose, mais pourquoi il était
Khayav Mita? C'est ce que je te pose comme question. Le fait est qu'il est mort.
Parce qu'il est mort.
Ça, c'est une réalité.
Bon, c'est peut-être pas qu'il était Khayav Mita.
Mais du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, si quelqu'un est mort, c'est qu'il mérite de mourir. Moi, j'essaie de me poser la question, pourquoi Evel va mourir? Agav, d'ailleurs, je le savais, je le voyais venir. Hein. Ils l'ont appelé comment? Evel, ça veut dire quoi? Donc tu vois bien que Evel il va pas rester, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et donc je te dis, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Il a pensé que Caïn il avait déjà changé.
Il avait déjà changé.
Exactement. Il aurait dû l'attacher et lui faire un séminaire de quelques mois de travaux d'intérêt général. Pour le faire prendre conscience de ses actes et commencer à lui apprendre la évélitude. Et à la fin, Caïn, il aurait fait tchouva et il serait devenu le Mashiach. Ça n'a pas marché. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Iné. Vayomer Hashem el Caïn. Hé, velachicha. Vayomer lo yadanti. Hashomer achi anochi. Ça veut dire quoi? Nous, on a l'habitude de dire, suis-je le gardien de mon frère? Non. Qui t'a dit que c'était un point d'interrogation? Point d'exclamation. Hashomer achi anochi. C'est, viens pas me demander des comptes à moi. Qui est responsable de la mort de Evel? Ata. Anochi Hashem Elohecha. Hashomer achi. Zata, anochi. Celui qui se dévoile par anochi Hashem Elohecha. Alors, si tu n'avais pas voulu que je le tue, tu m'aurais empêché de le tuer.
Non, il avait le
libre arbitre. Eh oui, tu vois bien qu'il ne l'a pas encore intégré, son libre arbitre. Exactement. Ah, oui. Et donc, en fait, lui, il se fait passer pour quoi? Pour le bras armé de Dieu. C'est-à-dire que, est-ce que Caïn est un bourreau ou un juge? Ou c'est un assassin? Eh bien, en vérité, ça, on va le vérifier 7 générations plus tard.
Sept générations plus tard,
où son arrière-petit-fils, Lémer, va tuer Caïn. Et on va voir que rétrospectivement, dans cette famille, on n'est pas des juges, on est stam des assassins. Mais ça se prouvera que beaucoup plus tard. Pour l'instant, on est quand même dans le doute. Est-ce que Caïn, c'est vraiment un problématique? C'est un rachat, c'est pas un rachat? Donc, ויאמר מה עשית כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מה זה כל דמי אחיך? Pourquoi les sangs de ton frère crient vers moi des profondeurs? Ben oui, parce qu'à cause de ce que tu as fait, il ne pourra pas avoir d'enfants, de petits-enfants, de petits-enfants, et ainsi de suite. צועקים אליי מן האדמה. ואתה, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. Donc tu es maintenant maudit de cette terre-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, le châtiment de Caïn, c'est d'être Galout. Errant. Galout. Navanad tiebaaretz. Va dire Caïn el Hashem, Gadol avoni mineso. C'est trop dur. Ce que tu me demandes, c'est trop dur. J'y arriverai pas. Gadol avoni mineso. Je suis incapable de porter ma faute. Cette réponse de Caïn, ça montre que là, il a compris. Et en vérité, il a tout à fait raison. Quelle que soit la faute qu'on fait, alors a fortiori quand on va tuer quelqu'un, mais quelle que soit la faute qu'on fait, elle est trop grande pour nous. Parce que c'est quoi faire une faute ? En pensant que c'est une faute, hein, c'est-à-dire que je suis conscient, machin. Si je ne sais pas, je ne sais pas, mais une faute. C'est Mérida ben Malchut Shamay. C'est se révolter contre Dieu. C'est trop grand pour moi. Mazé, j'ai juste dit du Lashon Hara. Oui, mais quand on y réfléchit, Dieu il m'a dit de ne pas le faire. Je me révolte contre Dieu. C'est gadol alay. J'y arriverai pas. Et donc, réponse de Dieu, iné. En, gerashta oti ayom me'al pene adama, umipanecha esater, vaiti navanat ba'aretz, vaya kol motzi yargen. Pourquoi c'est trop dur pour moi? Parce que je suis maintenant caché de toi. Umipanecha esater, je vais être obligé de me cacher de toi. Je ne peux plus avoir de relation avec toi. Et donc, tout celui qui va me trouver va me tuer. C'est quoi tout ce qui va me trouver, me tuer? Alors on a dit tout à l'heure de qui il a peur. Rachid, il dit la peur des animaux. Ça a l'air aussi. Mais pourquoi il a peur?
Des autres
hommes. Parce que si je ne peux plus être en contact avec Dieu, ma vie, plus d'intérêt. Et donc Dieu lui dit, Altidak, Vayomer lo Hashem, Lachen kolore kain shivataim yukan. C'est-à-dire, je vengerai celui qui te tuera, ne t'inquiète pas. Vayasem Hashem le kain ot. Le bilti akot oto kol motzo. Et donc Dieu a fait un signe à Caïn pour que personne ne puisse lui faire de mal. En français, on parle de. Le truc de Caïn. Je crois que c'est hot. C'est pas hot Caïn. Ouais. Mais c'est une connotation négative. Alors qu'en fait, dans la Torah, c'est une connotation positive. C'est-à-dire que Dieu dit, je vais te mettre quelque chose pour te protéger. Et c'est quoi ce quelque chose? Le roi Katfilin. C'est que même si tu t'es éloigné d'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a quand même mis sa marque sur toi. C'est-à-dire que tu n'es jamais vraiment éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Le Hot Kain, c'est quoi? C'est de dire que quel que soit l'éloignement, tu es toujours connecté. Tu ne perds jamais le Wi-Fi pour de vrai. Tu es toujours connecté. Le bilti akoto oto kol motzo, vayetse kain milifne Hashem, vayeshev beeretz nod kidmat Eden. Ah, il devait être nomade. Il s'est installé dans le pays de la nomaditude. C'est-à-dire, il a décidé de rester en galoute, mais de faire de la galoute un idéal. Et ça va être le début de la déchéance de cette humanité-là. Parce qu'à partir du moment où tu décides d'idéaliser l'éloignement de Dieu, eh ben ça ne peut qu'amener à une destruction, et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.
J'ai quand même une question.
Oui, je t'en supplie.
À aucun moment Dieu a interdit...